Bonjour, je suis Thomas Bortolato. Vous écoutez La Librairie des étudiants, une capsule auditive de Radio Campus Grenoble. Bonne écoute.
Amis auditeurs et auditrices, merci d'être au rendez-vous de la librairie des étudiants aujourd'hui. Il y a des événements qui marquent notre société en profondeur et le sujet de notre livre du jour en fait partie. En 2024, à Avignon, s'est ouvert l'audience d'un procès qui nous a tous marqués. Le procès de l'affaire des viols de Mazan est aujourd'hui encore un moment fort et important de notre société moderne. Une affaire monstrueuse mais qui a mis en lumière un combat, une femme, Gisèle Pellicot, et des milliers de voix trop souvent délaissées. Pour le magazine Paris Match, notre autrice du jour a couvert l'affaire dont elle tire ce livre, ce récit de ce temps où une société sombre se révèle. La chair des autres, c'est le titre de ce récit publié en avril 2025 aux éditions Albin Michel. Bonjour Claire Berest.
Bonjour.
Merci d'être à ce micro aujourd'hui.
Merci de cette invitation.
De prendre de votre temps pour nous parler de ce livre. 51 accusés reconnus coupables, une victime, 9 accusés vont même faire appel de la décision de justice. Lorsque Paris Match vous appelle en septembre 2024, qu'est-ce qui vous traverse l'esprit ?
Alors, j'essaie de remonter à ce moment si particulier qui, pour moi, a basculé dans ma vie. Il y a vraiment un avant et un après. Et pour être dans la confidence avec vous, en septembre 2024, je suis évidemment le procès comme la plupart d'entre nous, dans les journaux, dans les comptes rendus médiatiques, mais je suis vraiment une spectatrice éloignée. Et en fait, je reçois cet appel de Paris Match, avec qui j'avais collaboré une fois, où ils m'avaient demandé en tant qu'autrice, pour suivre la journée de constitutionnalisation, c'est difficile à dire, de l'IVG à Versailles, avec Yaël Braun-Pivet. Donc j'avais eu une collaboration. Mais le journaliste en question savait que j'avais une forme de fascination, en tout cas un goût pour les faits divers, et il me rappelle, le procès a déjà commencé. Et la confidence, c'est qu'à ce moment-là, en fait, je n'ai absolument pas la possibilité de y aller, parce que déjà, je suis en train d'écrire un autre livre, je dois m'occuper de mes enfants, parce que mon compagnon est lui-même en train de porter un livre qui vient de sortir. Mais au moment où j'ai Paris Match au téléphone, je sais que comme je ne peux absolument pas y aller, je vais y aller. Je vais trouver un moyen d'y aller. Et j'ai senti là qu'il y avait une forme de nécessité, quelque chose sur lequel je ne mettais pas encore de mots, mais j'ai senti que je ne pouvais pas me défausser. Je ne pouvais pas me défausser de ce rendez-vous. Et j'ai réussi à y aller en octobre et en novembre.
Ce procès, c'est, on l'a souvent dit, c'est le procès de l'intime. Au sens large, l'intime détruit d'un couple par cette sexualité qui est manipulée, cette sexualité qui est violée de 2011 à 2020 durant les faits. Vous racontez que Dominique Pellicot évoque des désirs d'une troisième personne dans les rapports du couple, ce que Gisèle refuse et c'est même son droit. Vous explorez encore un peu plus le couple en littérature. C'est déjà ce que vous aviez fait avec votre précédent roman, L'épaisseur d'un cheveu. Qu'avez-vous compris cette fois-ci dans le couple avec ce récit ?
Alors, compris, ce serait présomptueux parce que je pense que je cherche de livre en livre. Je me plonge, je m'immerge, je me questionne à nouveau, je pose d'autres questions différemment. Et c'est une manière de comprendre des choses, de perpétuellement se questionner, de ne pas rester figé sur des opinions, de ne pas partir avec des a priori, de changer d'angle. Donc c'est un petit peu la quête. Et c'est vrai, comme vous l'avez souligné, que je me rends compte maintenant. De roman en roman, j'ai quasiment tout le temps exploré l'espace du couple. Mais je ne suis pas partie avec mon premier roman en me disant que j'allais faire ça, bien sûr. C'est avec les années, j'en suis à mon 10e livre, ça fait plus de 12 ans que je publie, et je m'aperçois, je prends conscience que j'ai toujours tiré ce fil-là, cet espace géographique si particulier, de deux personnes ensemble, au sein de cette petite cette secte à deux, au sein de cet endroit privilégié, peut naître ce qu'il y a de plus beau, ce qu'il y a de plus sublime et ce qu'il y a de plus monstrueux. Et il est vrai que, par-delà mon goût du crime ou du fait divers qui est spécifique, voilà, c'était un formidable, dans le sens pas du tout amélioratif, mais dans le sens extraordinaire, cas d'interrogation de couple, l'affaire dite des viols de Mazan, parce que un couple ensemble depuis un demi-siècle, depuis 5 décennies, 50 ans, mais un couple très heureux. Ça, c'est très frappant. Un couple qui rendait presque jaloux son entourage, tant on pensait qu'ils avaient trouvé un filtre de longévité que les autres n'avaient pas. Un couple qui, après 50 ans, était toujours si attentionné l'un envers l'autre, si amoureux, si démonstratif, dans le soutien. Et, comme le disait Madame Pellicot à la barre, ayant tout surmonté ensemble, les accros de la vie, les blessures de la vie, ayant tout surmonté. Et c'est la première chose que Madame Pellicot a dite au sous-brigadier Perret qu'il a reçu en novembre 2020 à Carpentras pour lui révéler cette tragédie. La première chose qu'elle a dite, c'est « Mais Monsieur Pellicot, c'est un super mec ». Et c'est vrai que c'est un cas paroxystique. Comment il peut y avoir tant d'amour et tant de monstruosité, tant de trahison, tant d'abus, tant de viols, tant de mensonges. Et effectivement, nous avons été évidemment tous très très bousculés par ce cas de ce qu'il disait des violences sexuelles, de ce qu'il disait des rapports hommes-femmes, de ce qu'il disait de Monsieur Tout-le-Monde. Mais il y avait aussi, je pense, cette composante qui nous a tous interpellés, tous et toutes interpellés, cet espace du couple dans lequel on pense être protégé, on pense être au bon endroit, peut se révéler le précipice absolu de tous les dangers.
Et d'ailleurs, c'est ce que vous évoquez aussi dans votre livre. C'est justement le moment où Gisèle Pellicot comprend qu'en fait, même chez elle, finalement, elle n'est plus chez elle.
Oui, il y a des sociologues qui se sont penchés sur cette question, ou des psychologues, sur l'idée que nous faisons vraiment une frontière mentale entre l'extérieur et l'intérieur, quel que soit notre intérieur, que l'on habite encore chez ses parents, que l'on habite un petit studio sans grand confort ou une très grande maison magnifique. Peu importe, nous avons construit un intérieur, un endroit où quand on ferme la porte, nos tracas, nos désagréments, les gens qui n'ont pas été sympathiques avec nous, des mauvaises choses qui nous sont arrivées dans notre journée, on peut symboliquement fermer une porte. Et c'est particulièrement perturbant, si on prend 2 secondes de recul, de savoir que c'est dans ce petit pavillon de Mazan, l'intérieur, donc l'intériorité de Madame Pellicot, cet endroit avec sa chambre dans lequel elle se couchait tranquillement le soir dans son pyjama, l'endroit où il ne peut rien se passer, où tout d'un coup justement le monde cesse de nous agresser, qu'elle se retrouvait la proie et la victime des pires abus. Et c'est vrai que de prendre 2 secondes de recul pour penser à cette chose-là, est un des fils qui nous fait nous apercevoir du vertige absolu de cette affaire.
Le vertige aussi, c'est aussi par la parole durant cette affaire. Vous l'évoquez aussi dans votre précédent roman. Il y a une continuité, on l'a dit. Cette parole qui pose beaucoup de questions, que ce soit donc dans le couple, dans les échanges entre Dominique Pellicot et les agresseurs qui comparaissent dans cette salle de tribunal, des magistrats aux prévenus, vous l'évoquez aussi avec le président de la cour, de l'aveu jusqu'au silence. Comment vous, dans cette salle Voltaire, vous l'avez perçue, cette parole ?
C'est une très bonne question et c'est un petit peu le centre névralgique, je pense, de tout ce que nous avons ressenti avec cette affaire. Parce qu'effectivement, il y a quelque chose de tout à fait particulier à l'enceinte d'une cour criminelle, ce qui était le cas à Avignon, ou d'une cour d'assises, hein, mais c'était une cour criminelle à Avignon. C'est que c'est un endroit où on espère qu'il va se passer des choses, beaucoup de choses, pour que, à la fin de ce moment judiciaire, une vérité puisse se manifester. Et pour ce faire, quel est l'outil à notre disposition ? C'est la parole. Que chacun, tous les acteurs des affaires qui passent en cour criminelle ou en cour d'assises, puissent prendre cette parole pour tenter, chose bien difficile, de mettre des mots, parfois sur l'indicible, sur ce qu'on ne peut pas représenter. C'est donc une affaire de mots, beaucoup. Et c'est vrai que, on peut s'arrêter une seconde là-dessus, dans le cas des violences sexuelles, c'est malheureusement souvent des affaires de parole contre parole. Ce qui va rendre ces affaires si complexes à étayer pour pouvoir faire se manifester une vérité sur laquelle on pourrait s'appuyer. Mais pas dans le cas, effectivement, de l'affaire des viols de Mazan, parce que, chose peut-être presque inédite dans les annales judiciaires, tous les crimes ont été enregistrés, archivés, gardés, sauvegardés, nommés. Il y a donc tous les crimes à disposition, à visionner. Donc la parole-là ne va pas venir se confronter à une autre parole pour tenter de faire sortir la vérité. Ça va aller peut-être un cran plus loin. C'est maintenant que ces crimes sont établis, essayer que chacun de ces protagonistes mette des mots sur la bascule criminels, sur leur culpabilité, sur leur intentionnalité. Et effectivement, on va se baser sur plein d'autres mots qui vont être les échanges en amont. Qu'est-ce qui a été dit? Qu'est-ce qui a été compris? Qu'est-ce qui a été anticipé? Puisque, je le rappelle, sur les 50 co-accusés, les trois quarts reconnaissent les crimes, mais pas l'intentionnalité des crimes. Et donc, il s'agit quand même de 4 mois, de beaucoup, beaucoup de mots pour tenter d'approcher l'indicible des violences sexuelles.
Vous parlez des mots aussi de Dominique Pellicot, vous avez fait référence à toutes ces images qui ont été archivées, mises dans des sous-dossiers, avec des mots aussi qui résonnent très fortement, sur lesquels vous arrêtez, vous parlez de ces violeurs, c'est comme ça qu'il a nommé un fichier, c'est au sens des possessifs, SES, et puis il y a aussi ces premières paroles qu'il prononce à la barre, je cite, « Je suis un violeur comme tous ceux dans cette salle ». Parce que Dominique Pellicot prononce ça, qu'est-ce que ça traduit déjà de lui ?
Alors c'est vrai que de pouvoir, j'allais dire observer comme si c'était une image, de pouvoir écouter plutôt la parole de Dominique Pellicot, c'était un petit peu des montagnes russes. Effectivement, vous avez rappelé déjà le langage qu'il utilise au moment des crimes pour archiver toutes les vidéos de ses abus. Et à chaque fois, parce que j'ai eu accès, donc, comme beaucoup de journalistes, à ce qu'on appelle l'ordonnance de mise en accusation, oui, l'OMA, qui est un document ici de 370 pages, un document de synthèse des 31 tomes d'instruction du procès, de façon très très clinique, presque technique, qui permettent de resituer toutes les étapes de l'instruction qui a duré 3 ans et demi avant le procès. Et effectivement, Dominique Pellicot a pu nommer certains de ses fichiers en utilisant des formules qui interrogent, vous avez rappelé, ces violeurs, SES, possessifs, pour parler de tous les hommes qu'il fait venir chez lui pour violer sa femme à son insu totalement, à elle, puisqu'elle est sédatée. Oui. Comment on peut du coup accoler le pronom possessif, le déterminant possessif dans un cas comme ça de sédation et d'absolument absence de conscience. Il y a également un autre fichier qui m'avait frappé qui s'appelle « Nuit seule », où il est entre guillemets « juste avec sa femme ». Mais en utilisant ce mot, c'est-à-dire qu'il... peut-être qu'il place l'idée de solitude quand il est avec elle, inconsciemment, ce qui dit bien cette bascule chez lui, cette femme qu'il aime plus que tout. Il le dira, c'est une sainte, oui, sans défaut, ce que j'ai de plus cher au monde. Mais quand il bascule dans ce qu'il appelle sa phase B, littéralement, elle est anéantie, elle n'existe plus, elle n'est plus que cet ustensile, cet accessoire qu'on se passe de main en main dans un boys club, et donc il appelle ses nuits les nuits seules, quand il n'est qu'avec elle. Mais d'autres mots m'ont frappé, le fait notamment que, et pardon pour le langage, mais il a beaucoup utilisé l'insulte salope pour parler de sa femme, et notamment en accolant le salope de bourgeoise, ce qui ne fait pas appel à une réalité très précise, dans le sens où ils sont tous les deux à peu près du même type de milieu, ce sont tous les deux des gens qui se sont élevés dans la classe moyenne, et sa femme ne serait pas plus bourgeoise que lui, ni d'extraction, ni de vie, à moins qu'il parle de sa sophistication. C'est une femme qui était très cultivée, qui s'est faite, qui aimait être coquette, qui aimait être apprêtée. Mais donc, vertige de questionnement sur cette insulte accolée à la bourgeoisie et qui a fait écho pour moi, dans un très grand questionnement, au dernier mot de Dominique Pellicot au procès, puisque à la fin du procès, chacun des accusés peut dire ses derniers mots. Beaucoup s'en sont servis pour présenter leurs excuses à Madame Pellicot. Certains n'ont rien dit. Et Dominique Pellicot, lui, a fait un petit... a pris un petit temps pour remercier un certain nombre de choses, pour dire un certain nombre de choses. Et à un moment donné, il a eu cette phrase « Je ne suis qu'un ouvrier. Ma vie est entre vos mains. » Et tout d'un coup, ce « Je ne suis qu'un ouvrier » venait pour moi percuter en écho ce terme de bourgeoise utilisé comme une insulte, alors que M. Pellicot n'a pas eu une vie d'ouvrier. Il a eu des errances professionnelles, certes, mais il a été petit patron de ses propres entreprises. Qu'est-ce qu'il voulait dire en rappelant ce terme qui évoque une forme de dominer, de domination? Les ouvriers, ce sont ceux qui doivent obéir au patron, d'une certaine manière. Et c'est vrai que, en suivant le langage, les mots utilisés dans ce procès, ça permettait, parfois même à l'insu des personnes qui les prononçaient, de mettre en lumière de vrais questionnements sur le placement de chacun dans le monde, et notamment par rapport à l'altérité.
Vous l'avez évoqué, il parle de sa femme comme une sainte, c'est ce qu'il a défini, malgré ce qu'il lui a fait subir. Est-ce que durant ce procès, Est-ce qu'il avait vraiment conscience, même peut-être devant la cour, de ce qu'il avait fait endurer à sa femme? Ou est-ce que c'était pour lui quelque chose où il était complètement déconnecté?
C'est une vraie question et je me garderai d'avoir des réponses définitives. Je ne suis pas dans la tête de Dominique Pellicot, mais je peux vous dire différentes choses. Tout au long de ces 4 mois, il est indéniable, il a beaucoup parlé, il a pris très souvent la parole, puisqu'à chaque fois que l'examen d'un cas, d'un accusé était examiné, il était amené à pouvoir commenter. Donc il a pris énormément la parole pour lui-même et pour commenter tous les cas des co-accusés. Et c'était indéniable qu'il a passé énormément de temps à rappeler, à dire, à redire l'amour qu'il avait pour sa femme, qu'elle était une absolue victime. Notamment, il a passé du temps à charger à chaque fois chacun des hommes qui tentaient de se défendre en disant qu'il n'avait pas compris, il pensait que c'était un scénario libertin, il n'avait pas eu l'intention de violer, il ne s'en était pas rendu compte sur le coup. Beaucoup ont exploré ce type de défense. Et c'est vrai qu'à chaque fois, Dominique Pellicot prend la parole pour dire sa femme était une victime, qu'ils étaient tous des violeurs, et de rappeler qu'elle était, encore une fois, une sainte, l'amour de sa vie, son tout, ce qu'il avait de plus profond. Donc, nous avons une forme de vide de la pensée. Nous avons une forme d'effet de discontinuité quand un homme qui a orchestré avec méticulosité et organisation et préméditation des abus d'une telle gravité et que cela puisse cohabiter avec ce qui semble être un réel et profond amour. La certitude que j'ai, je sais peu de choses, je ne peux pas me mettre à la place de Dominique Pellicot, la certitude que j'ai, c'est qu'il a aimé cette femme pendant 50 ans. Il a aimé la mère de ses enfants, la grand-mère de ses petits-enfants, pendant 50 ans. Donc la question, c'est comment un tel clivage peut se mettre en place? Comment on peut aimer et vouloir choyer ce qu'on a de plus précieux et soumettre cette personne à la pire des trahisons? Ça ouvre des pans de questionnement. Je pense que cette affaire sera cas d'école probablement dans les formations de juristes, dans les formations peut-être même médicales, psychologiques, psychiatriques, parce que c'est un cas absolu de clivage, mais pas un clivage qui s'ignore, hein, un clivage qui cohabite. Et c'est vrai qu'on a quelques cas de grands criminels très très clivés, mais pas tant que ça. Je pense par exemple au cas du Grélé en France, qui a été presque arrêté 30 ans après ses crimes, mais qui s'est suicidé avant de pouvoir être présenté à la justice, qui était de la même façon un bon père, un bon mari. Il était membre de la garde républicaine, une personne sans histoire et qui, en fait, a tué et violé un certain nombre de personnes, dont des enfants. Bon, et c'est vrai que ces cas de clivage, je pense que ça nous interpelle tous, parce que c'est cette idée de notre obscurité cachée, de notre éthique ou morale personnelle. Et je pense que, plus largement, les faits divers, dans leur caractère paroxystique, dans leur côté le plus sombre et le plus cru, nous interrogent aussi sur notre propre humanité. Parce que les cas des faits divers, ce sont toujours, comme nous, des monsieur et madame tout le monde, qui peuvent basculer en monsieur et madame tout le monstre, comme dirait Daniel Zaguri, criminologue, et qu'il nous interroge sur notre propre humanité, altérité, zone d'ombre. Et Pellicot a eu des tentatives de réponse pendant les audiences en disant par curiosité, par vice aussi, tout simplement, en prononçant ces mots, en assumant cette zone d'ombre que l'on a tous, mais que normalement, nous cadenassons avec des surmois et avec des filtres, et avec, tout le monde peut avoir des fantasmes plus ou moins étranges, mais de là passer à l'acte dans l'illégalité, voilà. Et c'est vrai qu'il sera un cas d'école, je pense, pour les études psychiatriques.
C'est aller au-delà du point de bascule, comme vous l'évoquez dans votre livre. Vous évoquez aussi l'écriture, la difficulté d'écrire sur le malheur des autres. Comment s'est passée l'écriture, voire même l'édition de ce livre pour vous?
Effectivement, je suis romancière plutôt, donc j'écris de la fiction. J'ai écrit des essais dans ma vie, mais il y a longtemps, ça ne m'était pas arrivé depuis longtemps, et sur des sujets complexes, hein, qui étaient l'éducation nationale ou la brigade des mineurs de Paris. Mais c'est vrai que là, j'écrivais sur la tragédie de quelqu'un d'autre, à chaud, à vif, au moment où tout s'était produit, on va dire, juridiquement, enfin, en termes de procès. Je pense que je ne pouvais pas écrire ce livre autrement que dans la poursuite de ce que je venais de vivre, en étant totalement en apnée dans cette affaire. Bien sûr, j'aurais pu écrire des années plus tard, ce n'aurait pas été le même livre. Je pense que comme beaucoup des gens qui sont allés au procès, dans les journalistes, j'ai pu en parler avec un certain nombre, on avait tous un peu les mêmes mots de se dire « mais je suis ébranlée, je suis plongée dedans, j'ai du mal à couper, j'ai du mal à ne pas suivre le procès ». Et je pense que chacun, on a eu besoin de trouver un moyen de sortir de cette tragédie. Et l'écriture de ce livre a été ce moyen-là pour moi. Mais je dois dire que j'ai tenté de trouver la bonne distance, c'est-à-dire la distance tout à fait respectueuse du malheur de Madame Pellicot, une distance en évitant tout voyeurisme, tout détail inutile pour enfoncer le sordide. Les choses que j'explique sont toujours en appui de réflexion. C'est un chemin de réflexion philosophique, on va dire. Mais en même temps, avec cette distance tout à fait respectueuse envers la tragédie de cette dame, j'ai aussi été tout à fait proche, en me mettant moi-même dans le récit, en utilisant la première personne, parce que c'était aussi la politesse pour parler de la tragédie de l'autre, c'était de faire corps avec cette tragédie et de mettre sa propre chair dans le récit pour justement approcher ce que cette dame nous a donné, une très très grande leçon d'altérité, une lumière du coup, parce qu'elle, elle a réussi à s'extirper de son malheur pour pouvoir se tourner vers les autres.
L'effroyable va aussi se rajouter à ce qui est le plus effroyable devant la cour, à savoir donc Gisèle Pellicot, cette victime. Lorsque parmi ces 20 000 images à caractère sexuel retrouvées, il y a aussi des clichés qui concernent la fille de Dominique et Gisèle Pellicot. Je parle bien sûr de Caroline Darian. Est-ce que elle met aussi en lumière du coup cette soumission chimique qu'elle a eue, qu'elle a subie avec sa mère? Est-ce que cette soumission chimique, au-delà de ce qu'on a pu voir aussi dans la presse par rapport à des députés ou à d'autres femmes qui peuvent vivre ça, est-ce que c'était aussi une façon pour Dominique Pellicot de se rassurer, de se dire qu'il avait du pouvoir, de l'ascendant? Est-ce que aussi, cette affaire est aussi une question de pouvoir, finalement?
Indéniablement, elle interroge le besoin de pouvoir qui irait dans un fantasme de masculinité. Ça, c'est indéniable. Il y avait 51 accusés hommes dans cette salle. En ce qui concerne Caroline Darian, qui fait un très beau travail pour alerter sur la soumission chimique. De fait, le procès a été aussi difficile pour elle, puisque les deux clichés qui ont été retrouvés dans les 20 000 documents, vidéos et photos des matériaux d'abus de Dominique Pellicot n'ont pas donné lieu lors de l'instruction à pouvoir tirer la lumière précise sur dans quelles circonstances ces clichés avaient été pris. Et elle a communiqué bien sûr dessus à quel point ça avait été difficile pour elle. Et c'est vrai que la juge d'instruction, Gwenaëlle Journeau, s'est exprimée, et l'avocate générale aussi, Laure Chabot, s'est exprimée en parlant de Caroline Darian, en disant « la justice, parfois, n'arrive pas à une conclusion pour toutes les victimes d'une affaire ». Et ils en étaient désolés qu'effectivement, l'affaire était tellement hors norme et gigantesque en ce qui concernait les crimes commis à l'encontre de Madame Pellicot, qu'effectivement, il y a peut-être d'autres victimes qui se sont senties mise à la frontière de cette affaire. Mais Caroline Darian a porté plainte à nouveau contre son père en mars, après le procès, oui. Et probablement, elle aura donc un autre moment judiciaire pour tirer cela au clair. Mais c'est vrai qu'elle elle alerte beaucoup sur ces idées sur ces crimes de soumission chimique. Moi, je me souviens qu'à mon époque, et je suis nettement plus âgée que vous, on avait vaguement l'idée du GHB, de cette drogue du violeur qui pouvait se retrouver dans les verres en boîte de nuit. Et on était un petit peu alerté comme ça en tant que jeune fille de « attention, ne laissez pas traîner vos verres dans une soirée, n'acceptez pas des verres d'inconnus que vous n'avez pas vu être servis par le barman, etc. etc. » Mais c'est vrai que à cette époque, et je pense même jusqu'à assez récemment, l'idée qu'une soumission chimique pouvait être mise en place dans le cercle familial, par les gens les plus proches de soi, dans un climat de confiance absolue et pas du tout dans un climat festif, c'est vrai que c'est une nouveauté. Et on pense effectivement à la députée qui a subi cet assaut-là et qui, je crois, soutient Caroline Darian dans son travail d'alerte. C'est sûr que ça interroge. Alors attention, moi, je ne fais pas partie des gens qui ont le sentiment que tous les hommes sont des violeurs. Pas du tout. pas du tout. Je pense que toutes les questions de combat féministe et de combat de violence sexuelle, tous les combats des problématiques archaïques entre les hommes et les femmes, est un combat que l'on doit mener avec les hommes et les femmes, voilà,
ensemble.
Et que, de fait, le fait de rentrer dans cette salle d'audience, d'entendre la voix de tous ces co-accusés, évidemment, n'a absolument pas remis en cause leurs crimes qui étaient étayés et bien réels. Et ils ont tous été condamnés. En revanche, permettait de saisir la complexité de cette humanité qui avait pu basculer. C'était 50 hommes, c'était 50 parcours différents, individus différents, de 22 à 68 ans au moment des faits, des gens mariés, non mariés, avec des addictions, sans addiction, avec des enfants, sans enfants, et que ça rappelait absolument que nous sommes tous concernés. Et que les hommes dans cette salle, ils ont été beaucoup défendus, et c'était assez beau, par beaucoup de femmes, leurs mères, leurs sœurs, leurs compagnes, leurs amis, qui sont venus à la barre avec beaucoup de détresse pour dire que ces hommes qu'elles connaissaient, leurs frères, leurs amis, n'étaient pas des violeurs. Alors évidemment, tout cela ouvre ce débat sur les problématiques du consentement et de la définition du viol, du problème de l'inculture du viol, de la culture du viol. Mais ça m'a frappée de voir dans cette salle que les femmes que je voyais à la barre qui défendaient aussi ces hommes pour dire « il a commis ses faits, mais il n'est pas un violeur », que cette parole qui questionne nos problématiques d'inculture du viol, eh ben ces femmes, elles n'étaient pas différentes de celles qui étaient devant le tribunal et qui criaient à juste titre leur colère et qui demandaient 20 ans pour chacun. En fait, toutes ces femmes, ce sont les mêmes, ce sont des sœurs, si je puis dire, en humanité. Elles se sont juste retrouvées chacune d'un côté et de l'autre du miroir. Et que ça m'a aussi beaucoup fait réfléchir à cela, de suivre de l'intérieur ce procès, parce que ces hommes n'étaient plus une masse ou des silhouettes. Ils étaient des individus avec des parcours. Et que si on veut prévenir les violences sexuelles, il faut prendre conscience que ça peut être des hommes sans antécédent de violence, sans velléité spécifique de violer qui que ce soit, que la bascule guette de méconnaissance, d'inculture, et que c'est surtout cela en amont, dans l'éducation sur laquelle il faut travailler. Et je rappelle aussi, ce qui n'est absolument pas n'excuse rien de ce qu'ils ont fait, pas du tout, les trois quarts des hommes dans cette salle ont eu des enfances avec des maltraitances physiques, sexuelles, des maltraitances dues à leurs parents. Ce qui ne veut absolument pas dire que ça excuse quoi que ce soit, mais ça nous rappelle que la société, elle est garante de prendre en charge les victimes des abus quand ils sont enfants. Et que, en tant que citoyenne, je me suis sentie aussi comptable de ces enfants que l'on n'a peut-être pas protégés et qui, 20 ans, 30 ans plus tard, se retrouvent accusés de crimes dans une salle de cour criminelle.
Il est aussi question dans votre récit du pardon. Le pardon qui pose question derrière ce procès, ce qu'il s'est passé, ce que l'on sait, ce que l'on pense aussi. La justice ayant condamné ses coupables, aujourd'hui, est-ce que Gisèle Pellicot nous donne ce message de tenter de reprendre sa vie malgré tout ? Malgré qu'elle dise que la façade tient, mais qu'en elle, c'est un champ de ruines, pour la paraphraser.
Alors, c'est intéressant parce que, philosophiquement, si on se penche sur l'idée du pardon, dans un sens philosophique, le pardon, c'est pardonner l'impardonnable. Ce qui nous laisse de la matière à réflexion. Est-ce que l'on peut pardonner l'impardonnable ? C'est ça le vrai pardon, pardonner l'impardonnable. Je ne me mettrai encore une fois pas du tout dans la tête de Madame Pellicot. Simplement, je peux témoigner du fait qu'elle a semblé être apaisée à la fin du procès, parce que c'est ce qu'elle a dit. Elle a remercié tous les acteurs de la cour criminelle. Elle a remercié le président Roger Arata et les juges assesseurs. Et elle a respecté les décisions. Elle a semblé dire qu'elle les trouvait acceptables. Elle nous donne aussi une leçon. Elle a été là les 4 mois de ce procès au très très long cours. Elle a assisté à tout cela. Elle a fait ce que ces hommes n'ont pas fait. Elle a prêté attention à l'autre. Elle a écouté les parcours des vies de ces hommes qui, eux, quand ils sont rentrés dans la chambre du pavillon de Mazan, n'ont pas cherché ni les yeux, ni le visage, ni la voix de la personne avec laquelle ils allaient entreprendre un rapport sexuel, ce qu'ils disaient être un rapport sexuel, qui est un viol, hein. Mais ils n'ont pas cherché cette altérité. Eh bien, elle a écouté, pendant les 4 mois, l'altérité de tous ces hommes-là. Je ne sais pas si elle pardonne ou elle pardonne pas, et c'est bien son affaire. D'ailleurs, elle va sortir un livre en janvier 26, dans lequel un hymne à la vie, dans lequel elle parlera avec ses mots de ce qu'elle a envie de dire sur cette affaire. Mais il est vrai que la grande leçon qu'elle nous a donnée, c'est, et je reprends ses mots, j'ai 72 ans, je suis un champ de ruines, je ne sais pas si j'aurai assez de ma vie pour me reconstruire, mais si ce que je fais, de lever le huis clos, de porter ce combat, peut permettre à des gens de se dire « si Madame Pellicot l'a fait, alors on pourra le faire », alors ce ne sera pas en vain. Et il faut se mettre à la place de cette dame qui apprend 10 ans d'abus à son encontre et de viol, à qui on efface toute la vie, tout son passé, 50 ans de vie de famille, tout est effacé, il n'y a plus d'album de famille, il n'y a plus rien du tout, à qui on enlève son destin. Le dernier chapitre de sa vie, sa retraite dans la garrigue qu'elle aimait, ses habitudes de marcher, un peu de chorale, sa vie à elle. On lui a tout enlevé. Et ben, elle a réussi à ne pas rester écrasée sur le sol. Elle a réussi à se lever pour parler à possiblement d'autres malheureux. Je pense qu'elle n'a pas du tout voulu devenir une icône féministe et que précisément, elle ne s'est même pas posé cette question-là. Mais en fait, elle est devenue une forme de phare, une forme de lumière. Et je pense qu'en tout cas, elle nous donne ces éléments-là. Je ne sais pas si on peut pardonner l'impardonnable, mais je vois à quel point on peut parfois s'extirper de son malheur pour porter attention aux autres. Et là, j'utilise à dessein un terme de la philosophe Simone Weil, porter attention aux autres. C'est ça peut-être la définition du bien.
Dans ce récit, il est aussi un peu question de vous, au-delà du jeu. Je ne peux pas trop en dire parce que c'est un moment important de votre livre. Mais vous nous confiez aussi votre fascination depuis toute petite sur les faits divers. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans le procès de Mazan par rapport à tous les autres faits divers que vous avez pu voir, entendre, étudier ?
C'est vrai que je ne pensais pas me plonger dans cette spécificité, alors que je partage avec beaucoup de gens, il y a beaucoup de gens fascinés par les faits divers, mais de fait, tous les gens qui me connaissent, ils connaissent cette part de moi et qui est particulièrement, on va dire, hypertrophiée, ma connaissance des faits divers. Et ça s'est invité beaucoup dans l'écriture, comme si j'allais puiser en comparaison presque dans un sens scientifique, pour essayer d'approcher quelque chose qu'on ne comprend pas, qui nous provoque un vertige, qui nous provoque une bascule, un vide de la pensée. Parfois, on a besoin d'aller chercher des éléments pour permettre de comparer, pour avancer dans la compréhension des choses. Et effectivement, je convoque un certain nombre de faits divers. Je vous donne un exemple. En 2022, il y a eu le procès de Dino Scala. Il est devenu relativement connu maintenant, cette affaire, ce fait divers, parce qu'il y a eu la série Sambre, très belle série qui a été faite sur cette affaire. Mais avant la série et avant le très beau livre qui avait été écrit par une journaliste, écorcher son nom, peut-être que
on
vous,
le retrouve.
On le retrouve, c'est Élise. Et là, son nom de famille m'échappe.
On le retrouve.
Qui a écrit ce livre sur cette affaire. L'affaire de Dino Scala, c'est un homme qui pendant 30 ans va violer en série plus de 50 femmes. On pense aujourd'hui même plus de 70, plus de 80. Mais il y aura 50 victimes, en tout cas en partie civile, à son procès. Vous voyez, c'est presque un miroir avec l'affaire Pellicot. Un homme face à 50 victimes féminines et plus de 50 violeurs face à une victime féminine. Et en fait, on n'a pas tant entendu parler de ce procès en 2022. Pourquoi est-ce que certains faits divers deviennent presque notre patrimoine, j'allais dire mondial, en tout cas notre patrimoine national, et ici presque mondial, puisque ça a dépassé les
résonance énorme.
Énorme, mais j'ai été aux États-Unis en avril, quand j'évoquais cette affaire, tout le monde connaissait. Je disais Mazan, je disais Gisèle Pellicot, dans une salle, je portais un livre qui n'avait rien à voir, qui était un livre, un de mes livres, Gabriel, qui est sorti il y a plusieurs années, qui est sorti aux États-Unis, mais quand j'évoquais cette affaire, tout le monde savait de quoi il retournait. Donc effectivement, je pense qu'il y a certaines affaires, ça devient presque notre famille, ça devient notre histoire, ça devient un jalon, mais dans notre histoire avec un grand H. Et c'est vrai que j'ai pris conscience qu'en allant chercher d'autres faits divers qui m'avaient beaucoup marqué, en questionnant leur matière psychologique, d'une certaine manière, j'essayais de faire un chemin d'exploration du mal. et que ce livre s'est transformé petit à petit, humblement, je n'ai pas les réponses, mais en exploration du mal, et je crois que les faits divers que l'on peut imaginer être une matière sordide, une matière voyeuriste, qui est comme ça un petit peu putassière, on pense aux journaux qui en font leur chou gras de manière un peu violente, c'est aussi un absolu continent qui parle de notre humanité et qui, j'ai l'impression, nous permet en permanence de réfléchir, d'aller plus loin et peut-être voilà, de se remettre en question. Et donc effectivement, ce livre s'est un petit peu transformé en exploration du mal.
Et ce livre s'appelle La chair des autres, il est à retrouver en librairie indépendante et il est à lire. Merci beaucoup Claire Berest.
Merci beaucoup à vous.
Merci aussi aux éditions Albin Michel et à votre attachée de presse Yasmin Ouanan d'avoir aussi rendu possible cet entretien dans les locaux de cette maison d'édition. Amis auditeurs et auditrices, je vous donne rendez-vous ce dimanche pour une toute autre chronique autour d'un livre d'Albert Camus. D'ici là, notre entretien du jour est à retrouver en balado-diffusion sur le site internet de Radio Campus Grenoble 90.8 à la rubrique de la librairie des étudiants. Continuons de faire grandir le monde dans le bon sens et pour cela, il y a aussi la littérature. Je vous souhaite d'avoir de belles lectures.